Le rouge et le noir, chapitre 31. Les plaisirs de la campagne. O rus quando ego te adspiciam. Horace. Monsieur vient sans doute attendre la malle-poste de Paris, lui dit le maître d'une auberge où il s'arrêta pour déjeuner.
Celle d'aujourd'hui ou celle de demain, peu m'importe, dit Julien.
La malle-poste arriva comme il faisait l'indifférent. Il y avait deux places libres.
« Quoi ? C'est toi, mon pauvre Falcoz ? » dit le voyageur qui arrivait du côté de Genève à celui qui montait en voiture en même temps que Julien.
« Je te croyais établi aux environs de Lyon, » dit Falcoz, « dans une délicieuse vallée du Rhône. »«
Joliment établi. Je fuis. »«
Comment ? Tu fuis ? Toi, Saint-Giraud ? Avec cette mine sage, tu as commis quelques crimes ? » dit Falcoz en riant.
« Ma foi, autant vaudrait. Je fuis l'abominable vie que l'on mène en province. J'aime la fraîcheur des bois et la tranquillité champêtre, comme tu sais. Tu m'as souvent accusé d'être romanesque. Je ne voulais de la vie entendre parler politique. Et la politique me chasse.
Mais de quel parti es-tu ?
D'aucun. Et c'est ce qui me perd. Voici toute ma politique. J'aime la musique, la peinture. Un bon livre est un événement pour moi. Je vais avoir 44 ans. Que me reste-t-il à vivre ? 15, 20, 30 ans tout au plus. Eh bien, je tiens que dans 30 ans, les ministres seront un peu plus adroits, mais tout aussi honnêtes gens que ceux d'aujourd'hui. L'histoire d'Angleterre me sert de miroir pour notre avenir. Toujours il se trouvera un roi qui voudra augmenter sa prérogative. Toujours l'ambition de devenir député. La gloire et les centaines de mille francs gagnés par Mirabeau empêcheront de dormir les gens riches de la province. Ils appelleront cela être libéral et aimer le peuple. Toujours l'envie de devenir pair ou gentilhomme de la chambre galopera les ultras. Sur le vaisseau de l'État, tout le monde voudra s'occuper de la manœuvre, car elle est bien payée. N'y aura-t-il donc jamais une pauvre petite place pour le simple passager ?
Au fait, qui doit être fort plaisant avec ton caractère tranquille. Sont-ce les dernières élections qui te chassent de ta province ?
Mon mal vient de plus loin. J'avais, il y a 4 ans, 40 ans et 500 000 francs. J'ai 4 ans de plus aujourd'hui et probablement 50 000 francs de moins, que je vais perdre sur la vente de mon château de Montfleury près du Rhône. Position superbe. À Paris, j'étais là de cette comédie perpétuelle à laquelle oblige ce que vous appelez la civilisation du XIXe siècle. J'avais soif de bonhomie et de simplicité. J'achète une terre dans les montagnes, près du Rhône, rien d'aussi beau sous le ciel. Le vicaire du village et les hauts bureaux du voisinage me font la cour pendant 6 mois. Je leur donne à dîner. J'ai quitté Paris, leur dis-je, pour de ma vie ne parler ni n'entendre parler politique. Comme vous le voyez, je ne suis abonné à aucun journal. Moins le facteur de la poste m'apporte de lettres, plus je suis content. Ce n'était pas le compte du vicaire. Bientôt, je suis en butte à 1000 demandes indiscrètes, tracasseries, etc. Je voulais donner 200 ou 300 francs par an aux pauvres. On me les demande pour des associations pieuses, celles de Saint-Joseph, celles de la Vierge, etc. Je refuse. Alors, on me fait 100 insultes. J'ai la bêtise d'en être piqué. Je ne puis plus sortir le matin pour aller jouir de la beauté de nos montagnes sans trouver quelque ennui qui me tire de mes rêveries et me rappelle désagréablement les hommes et leur méchanceté. Aux processions d'érogation, par exemple, dont le chant me plaît, c'est probablement une mélodie grecque. On ne bénit plus mes chants, parce que, dit le vicaire, ils appartiennent à un impie. La vache d'une vieille paysanne dévote meurt. Elle dit que c'est à cause du voisinage d'un étang qui appartient à moi, impie, philosophe venant de Paris. Et 8 jours après, je trouve tous mes poissons le ventre en l'air, empoisonnés avec de la chaux. La tracasserie m'environne sous toutes les formes. Le juge de paix, honnête homme, mais qui craint pour sa place, me donne toujours tort. La paix des champs est pour moi un enfer. Une fois que l'on m'a vu abandonné par le vicaire, chef de la congrégation du village, et non soutenu par le capitaine en retraite, chef des libéraux, tous me sont tombés dessus, jusqu'au maçon que je faisais vivre depuis un an, jusqu'au charron qui voulait me friponner impunément en raccommodant mes charrues. Afin d'avoir un appui et de gagner pourtant quelques-uns de mes procès, je me fais libéral. Mais, comme tu dis, ces diables d'élections arrivent, on me demande ma voix. Pour un inconnu? Pas du tout. Pour un homme que je ne connais que trop. Je refuse. Imprudence affreuse. Dès ce moment, me voilà aussi les libéraux sur les bras. Ma position devient intolérable. Je crois que s'il fût venu dans la tête au vicaire de m'accuser d'avoir assassiné ma servante, il y aurait eu 20 témoins des deux parties qui auraient juré avoir vu commettre le crime. Tu veux vivre à la campagne sans servir les passions de tes voisins, sans même écouter leur bavardage. Quelle faute! Enfin, elle est réparée. Mon fleuri est en vente. Je perds 50 000 francs s'il le faut, mais je suis tout joyeux. Je quitte cet enfer d'hypocrisie et de tracasserie. Je vais chercher la solitude et la paix champêtre au seul lieu où elles existent en France, dans un 4e étage donnant sur les Champs-Élysées. Et encore, j'en suis à délibérer si je ne commencerai pas ma carrière politique dans le quartier du Roule, par rendre le pain béni à la paroisse. Tout cela ne te fut pas arrivé sous Bonaparte, dit Falcoz avec des yeux brillants de courroux et de regret. À la bonne heure. Mais pourquoi n'a-t-il pas su se tenir en place, ton Bonaparte? Tout ce dont je souffre aujourd'hui, c'est lui qui l'a fait. Ici, l'attention de Julien redoubla. Il avait compris du premier mot que le bonapartiste Falcoz était l'ancien ami d'enfance de Monsieur de Rênal, par lui répudié en 1816, et le philosophe Saint-Giraud devait être frère de ce chef de bureau à la préfecture de... et qui savait se faire adjuger à bon compte les maisons des communes. « Et tout cela, c'est ton Bonaparte qui l'a fait, » continuait Saint-Giraud. « Un honnête homme, inoffensif s'il en fut, avec 40 ans et 500 000 francs, ne peut pas s'établir en province et y trouver la paix. Ses prêtres et ses nobles l'enchassent. » « Ah, ne dis pas de mal de lui !» s'écria Falcoz. « Jamais la France n'a été si haut dans l'estime des peuples que pendant les 13 ans qu'il a régné. Alors, il y avait de la grandeur dans tout ce qu'on faisait. « Ton empereur, que le diable emporte !» reprit l'homme de 44 ans. N'a été grand que sur ses champs de bataille, et lorsqu'il a rétabli les finances vers 1802. Que veut dire toute sa conduite depuis, avec ses chambellans, sa pompe et ses réceptions aux Tuileries? Il a donné une nouvelle édition de toutes les niaiseries monarchiques. Elle était corrigée, elle eût pu passer encore un siècle ou deux. Les nobles et les prêtres ont voulu revenir à l'ancienne, mais ils n'ont pas la main de fer qu'il faut pour la débiter au public. Voilà bien le langage d'un ancien imprimeur. Qui me chasse de ma terre? Continua l'imprimeur en colère. Les prêtres que Napoléon a rappelés par son concordat, au lieu de les traiter comme l'État traite les médecins, les avocats, les astronomes, de ne voir en eux que des citoyens, sans s'inquiéter de l'industrie par laquelle ils cherchent à gagner leur vie. Y aurait-il aujourd'hui des gentilshommes insolents, si ton Bonaparte n'eût fait des barons et des comtes? Non, la mode en était passée. Après les prêtres, ce sont les petits nobles campagnards qui m'ont donné le plus d'humeur, et m'ont forcé à me faire libéral. La conversation fut infinie. Ce texte va occuper la France encore un demi-siècle. comme Saint-Giraud répétait toujours qu'il était impossible de vivre en province, Julien proposa timidement l'exemple de monsieur de Rênal.
« Parbleu, jeune homme, vous êtes bon !» s'écria Falcoz. « Il s'est fait marteau pour n'être pas enclume, et un terrible marteau encore. Mais je le vois débordé par le Valenod. Connaissez-vous ce coquin-là ? Voilà le véritable. Que dira votre monsieur de Rênal lorsqu'il se verra destitué un de ces quatre matins, et le Valenod mis à sa place ?
Il restera tête à tête avec ses crimes, dit Saint-Giraud.
Vous connaissez donc Verrières, jeune homme ? Eh bien, Bonaparte, que le ciel confonde, lui et ses friperies monarchiques, a rendu possible le règne des Rênal et des Chélan, qui a amené le règne des Valenod et des Maslon. Cette conversation d'une sombre politique étonnait Julien et le distrayait de ses rêveries voluptueuses. Il fut peu sensible au premier aspect de Paris, aperçu dans le lointain. Les châteaux en Espagne, sur son sort à venir, avaient à lutter avec le souvenir encore présent des 24 heures qu'il venait de passer à Verrières. Il se jurait de ne jamais abandonner les enfants de son ami et de tout quitter pour les protéger, si les impertinences des prêtres nous donnent la République et les persécutions contre les nobles. Que serait-il arrivé la nuit de son arrivée à Verrières, si, au moment où il appuyait son échelle contre la croisée de la chambre à coucher de Madame de Rênal, il avait trouvé cette chambre occupée par un étranger, ou par Monsieur de Rênal? Mais aussi quelle délice les deux premières heures, quand son ami voulait sincèrement le renvoyer, et qu'il plaidait sa cause, assis auprès d'elle dans l'obscurité. Une âme, comme celle de Julien, est suivie par de tels souvenirs durant toute une vie. Le reste de l'entrevue se confondait déjà avec les premières époques de leurs amours, 14 mois auparavant. Julien fut réveillé de sa rêverie profonde parce que la voiture s'arrêta. On venait d'entrer dans la cour des postes, rue Jean-Jacques Rousseau. « Je veux aller à la Malmaison, » dit-il à un cabriolet qui s'approcha.
« À 7 heures, monsieur, et pourquoi faire ?
Que vous importe, marchez. »
Toute vraie passion ne songe qu'à elle. C'est pourquoi, ce me semble, les passions sont si ridicules à Paris, où le voisin prétend toujours qu'on pense beaucoup à lui. Je me garderai de raconter les transports de Julien à la Malmaison. Il pleura.
Quoi ? Malgré les vilains murs blancs construits cette année et qui coupent ce parc en morceaux ?
Oui, monsieur.
Pour Julien comme pour la postérité, il n'y avait rien entre Arcole, Sainte-Hélène et la Malmaison. Le soir, Julien hésita beaucoup avant d'entrer au spectacle. Il avait des idées étranges sur ce lieu de perdition. Une profonde méfiance l'empêcha d'admirer le Paris vivant. Il n'était touché que des monuments laissés par son héros. « Me voici donc dans le centre de l'intrigue et de l'hypocrisie. Ici règnent les protecteurs de l'abbé de Frilair. » Le soir du troisième jour, la curiosité l'emporta sur le projet de tout voir avant de se présenter à l'abbé Pirard. Cet abbé lui expliqua, d'un ton froid, le genre de vie qu'il attendait chez M. de La Mole.
« Si au bout de quelques mois vous n'êtes pas utile, vous rentrerez au séminaire, mais par la bonne porte. Vous allez loger chez le marquis, l'un des plus grands seigneurs de France. Vous porterez l'habit noir, mais comme un homme qui est en deuil et non pas comme un ecclésiastique. J'exige que 3 fois la semaine vous suiviez vos études en théologie dans un séminaire où je vous ferai présenter. Chaque jour à midi, vous vous établirez dans la bibliothèque du marquis, qui compte vous employer à faire des lettres pour des procès et d'autres affaires. Le marquis écrit en 2 mots, en marge de chaque lettre qu'il reçoit, le genre de réponse qu'il faut y faire. J'ai prétendu qu'au bout de 3 mois, vous seriez en état de faire ces réponses, de façon que sur 12 que vous présenterez à la signature du marquis, il puisse en signer 8 ou 9. Le soir, à 8 heures, vous mettrez son bureau en ordre et à 10 vous serez libre.
« Il se peut, » continua l'abbé Pirard, « que quelque vieille dame ou quelque homme au ton doux vous fasse entrevoir des avantages immenses, ou tout grossièrement vous offre de l'or, pour lui montrer les lettres reçues par le marquis.
« Ah, monsieur !» s'écria Julien rougissant.
« Il est singulier, » dit l'abbé avec un sourire amer, « que pauvre comme vous l'êtes, et après une année de séminaire, il vous reste encore de ces indignations vertueuses. Il faut que vous ayez été bien aveugle. »
« Serait-ce la force du sang ? » se dit l'abbé à demi-voix et comme se parlant à soi-même.
« Ce qu'il y a de singulier, » ajouta-t-il en regardant Julien, « c'est que le marquis vous connaît.
Je ne sais comment.
Il vous donne pour commencer 100 louis d'appointement.
C'est un homme qui n'agit que par caprice, c'est là son défaut.
Il luttera d'enfantillage avec vous.
S'il est content, vos appointements pourront s'élever par la suite jusqu'à 8 000 francs.
Mais vous sentez bien, reprit l'abbé d'un ton aigre, qu'il ne vous donne pas tout cet argent pour vos beaux yeux. Il s'agit d'être utile. À votre place, moi, je parlerai très peu, et surtout, je ne parlerai jamais de ce que j'ignore.
Ah ! Dit l'abbé, j'ai pris des informations pour vous. J'oubliais la famille de monsieur de La Mole. Il a 2 enfants, une fille et un fils de 19 ans. Élégant par excellence, espèce de fou qui ne sait jamais à midi ce qu'il fera à 2 heures. Il a de l'esprit, de la bravoure, et il a fait la guerre d'Espagne. Le marquis espère, je ne sais pourquoi, que vous deviendrez l'ami du jeune comte Norbert. J'ai dit que vous étiez un grand latiniste. Peut-être compte-t-il que vous apprendrez à son fils quelques phrases toutes faites sur Cicéron et Virgile.
À votre place, je ne me laisserai jamais plaisanter par ce beau jeune homme. Et avant de céder à ses avances parfaitement polies, mais un peu gâtées par l'ironie, je me les ferai répéter plus d'une fois. Je ne vous cacherai pas que le jeune comte de La Mole doit vous mépriser d'abord, parce que vous n'êtes qu'un petit bourgeois. Son aïeul à lui était de la cour, et eut l'honneur d'avoir la tête tranchée en place de grève, le 26 avril 1574, pour une intrigue politique. Vous, vous êtes le fils d'un charpentier de Verrières, et de plus, au gage de son père. Pesez bien ces différences et étudiez l'histoire de cette famille dans Moréré. Tous les flatteurs qui dînent chez eux y font de temps en temps ce qu'ils appellent des allusions délicates. Prenez garde à la façon dont vous répondrez aux plaisanteries de monsieur le comte Norbert de La Mole, chef d'escadron de hussards et futur pair de France, et ne venez pas me faire des doléances par la suite.
Et il me semble, dit Julien en rougissant beaucoup, que je ne devrais pas même répondre à un homme qui me méprise.
Vous n'avez pas d'idée de ce mépris-là. Il ne se montrera que par des compliments exagérés. Si vous étiez un sot, vous pourriez vous y laisser prendre. Si vous vouliez faire fortune, vous devriez vous y laisser prendre.
Le jour où tout cela ne me conviendra plus, dit Julien, passerai-je pour un ingrat si je retourne à ma petite cellule numéro 103 ?
Sans doute, répondit l'abbé. Tous les complaisants de la maison vous calomnieront, mais je paraîtrai, moi. Ad sum qui feci. Je dirai que c'est de moi que vient cette résolution.
Julien était navré du ton amer et presque méchant qu'il remarquait chez monsieur Pirard. Ce ton gâtait tout à fait sa dernière réponse. Le fait est que l'abbé se faisait un scrupule de conscience d'aimer Julien, et c'est avec une sorte de terreur religieuse qu'il se mêlait aussi directement du sort d'un autre.
« Vous verrez encore, » ajouta-t-il avec la même mauvaise grâce, et comme accomplissant un devoir pénible. « Vous verrez madame la marquise de La Mole. » C'est une grande femme blonde, dévote,
hautaine, parfaitement polie et encore plus insignifiante. Elle est fille du vieux duc de Chaulnes, si connu par ses préjugés nobiliaires. Cette grande dame est une sorte d'abrégé, en haut relief, de ce qui fait, au fond, le caractère des femmes de son rang. Elle ne cache pas, elle, qu'avoir eu des ancêtres qui soient allés aux croisades est le seul avantage qu'elle estime. L'argent ne vient que longtemps après. Cela vous étonne? Nous ne sommes plus en province, mon ami. Vous verrez, dans son salon, plusieurs grands seigneurs parlaient de nos princes avec un ton de légèreté singulier. Pour madame de La Mole, elle baisse la voix par respect toutes les fois qu'on nomme un prince, et surtout une princesse. Je ne vous conseillerais pas de dire devant elle que Philippe II ou Henri VIII furent des monstres. Ils ont été rois, ce qui leur donne des droits imprescriptibles au respect de tous, et surtout au respect d'êtres sans naissance, tels que vous et moi. Cependant, ajouta M. Pirard, nous sommes prêtres, car elle vous prendra pour tel. À ce titre, elle nous considère comme des valets de chambre nécessaires à son salut. « Monsieur, dit Julien, il me semble que je ne serai pas longtemps à Paris. À la bonne heure, mais remarquez qu'il n'y a de fortune pour un homme de notre robe que par les grands seigneurs. Avec ce je ne sais quoi d'indéfinissable, du moins pour moi, qu'il y a dans votre caractère, si vous ne faites pas fortune, vous serez persécuté. Il n'y a pas de moyen terme pour vous. Ne vous abusez pas. Les hommes voient qu'ils ne vous font pas plaisir en vous adressant la parole. Dans un pays social comme celui-ci, vous êtes voué au malheur si vous n'arrivez pas au respect. Que seriez-vous devenu à Besançon sans ce caprice du marquis de La Mole? Un jour, vous comprendrez toute la singularité de ce qu'il fait pour vous. Et si vous n'êtes pas un monstre, vous aurez pour lui et sa famille une éternelle reconnaissance. Que de pauvres abbés, plus savants que vous, ont vécu des années à Paris avec les 15 sous de leur messe et les 10 sous de leurs arguments en Sorbonne. Rappelez-vous ce que je vous contais l'hiver dernier des premières années de ce mauvais sujet de cardinal Dubois. Votre orgueil se croirait-il par hasard plus de talent que lui? Moi, par exemple, homme tranquille et médiocre, je comptais mourir dans mon séminaire. J'ai eu l'enfantillage de m'y attacher. Eh bien, j'allais être destitué quand j'ai donné ma démission. Savez-vous quelle était ma fortune? J'avais 520 francs de capital, ni plus ni moins. Pas un ami? À peine 2 ou 3 connaissances. Monsieur de La Mole, que je n'avais jamais vu, m'a tiré de ce mauvais pas. Il n'a eu qu'un mot à dire, et l'on m'a donné une cure, dont tous les paroissiens sont des gens aisés, au-dessus des vices grossiers, et le revenu me fait honte, tant il est peu proportionné à mon travail. Je ne vous ai parlé aussi longtemps que pour mettre un peu de plomb dans cette tête. Encore un mot. J'ai le malheur d'être irascible. Il est possible que vous et moi nous cessions de nous parler. Si les hauteurs de la marquise ou les mauvaises plaisanteries de son fils vous rendent cette maison décidément insupportable, je vous conseille de finir vos études dans quelque séminaire à 30 lieues de Paris, et plutôt au nord qu'au midi. Il y a au nord plus de civilisation et moins d'injustice. Et ajouta-t-il en baissant la voix. « Il faut que je l'avoue, le voisinage des journaux de Paris fait peur aux petits tyrans. Si nous continuons à trouver du plaisir à nous voir et que la maison du marquis ne vous convienne pas, je vous offre la place de mon vicaire et je partagerai par moitié avec vous ce que rend cette cure. Je vous dois cela, et plus encore. » ajouta-t-il en interrompant les remerciements de Julien, pour l'offre singulière que vous m'avez faite à Besançon. Si au lieu de 520 francs je n'avais rien eu, vous m'eussiez sauvé. L'abbé avait perdu son ton de voix cruel. À sa grande honte, Julien se sentit les larmes aux yeux. Il mourait d'envie de se jeter dans les bras de son ami. Il ne put s'empêcher de lui dire, de l'air le plus mal qu'il put affecter. « J'ai été haï de mon père depuis le berceau. C'était un de mes grands malheurs. Mais je ne me plaindrai plus du hasard. J'ai retrouvé un père en vous, monsieur. »
« c'est bon, » dit l'abbé embarrassé.
Puis, rencontrant fort à propos un mot de directeur de séminaire, « Il ne faut jamais dire le hasard, mon enfant. Dites toujours la providence. » Le fiacre s'arrêta. Le cocher souleva le marteau de bronze d'une porte immense. C'était l'hôtel de la Mole. Et, pour que les passants ne pussent en douter, ces mots se lisaient sur un marbre noir au-dessus de la porte. Cette affectation déplut à Julien. Ils ont tant de peur des Jacobins. Ils voient un Robespierre et sa charrette derrière chaque haie. Ils en sont souvent à mourir de rire, et ils affichent ainsi leur maison pour que la canaille la reconnaisse en cas d'émeute et la pille. Il communiqua sa pensée à l'abbé Pirard.
« Ah, pauvre enfant, vous serez bientôt mon vicaire. Quelle épouvantable idée vous est venue là !»«
Je ne trouve rien de si simple, » dit Julien.
La gravité du portier et surtout la propreté de la cour l'avaient frappé d'admiration. Il faisait un beau soleil.
« Quelle architecture magnifique !» dit-il à son ami.
Il s'agissait d'un de ces hôtels à façade si plate du faubourg Saint-Germain, bâti vers le temps de la mort de Voltaire. Jamais la mode et le beau n'ont été si loin l'un de l'autre.
Chapitre 32. Entrée dans le monde. Souvenir ridicule et touchant. Le premier salon où à 18 ans l'on apparut seul et sans appui. Le regard d'une femme suffisait pour m'intimider. Plus je voulais plaire, plus je devenais gauche. Je me faisais de tout les idées les plus fausses. Ou je me livrais sans motif, ou je voyais dans un homme un ennemi parce qu'il m'avait regardé d'un air grave. Mais alors, au milieu des affreux malheurs de ma timidité, qu'un beau jour était beau. Kant.
Julien s'arrêtait, ébahi, au milieu de la cour.
« Ayez donc l'air raisonnable !» dit l'abbé Pirard.
« Il vous vient des idées horribles, et puis vous n'êtes qu'un enfant. Où est le Nil Mirari d'Horace ?»
Jamais d'enthousiasme.
« Songez que ce peuple de laquais, vous voyant établi ici, va chercher à se moquer de vous. Ils verront en vous un égal, mis injustement au-dessus d'eux. Sous les dehors de la bonhomie, des bons conseils, du désir de vous guider, ils vont essayer de vous faire tomber dans quelque grosse balourdise. »
Je les en défie, dit Julien en se mordant la lèvre, et il reprit toute sa méfiance.
Les salons que ces messieurs traversèrent au premier étage, avant d'arriver au cabinet du marquis, vous eussent semblé, ô mon lecteur, aussi tristes que magnifiques. On vous les donnerait tels qu'ils sont, que vous refuseriez de les habiter. C'est la patrie du bâillement et du raisonnement triste. Ils redoublèrent l'enchantement de Julien.
« Comment peut-on être malheureux, pensait-il, quand on habite un séjour aussi splendide ?»
Enfin, ces messieurs arrivèrent à la plus laide des pièces de ce superbe appartement, à peine s'il y faisait jour. Là se trouva un petit homme maigre, à l'œil vif et en perruque blonde. L'abbé se retourna vers Julien et le présenta. C'était le marquis. Julien eut beaucoup de peine à le reconnaître, tant il lui trouva l'air poli. Ce n'était plus le grand seigneur, à mine si altière, de l'abbaye de Bray-le-Haut. Il sembla à Julien que sa perruque avait beaucoup trop de cheveux. À l'aide de cette sensation, il ne fut point du tout intimidé. Le descendant de l'ami de Henri III lui parut d'abord avoir une tournure assez mesquine. Il était fort maigre et s'agitait beaucoup.
mais il remarqua bientôt que le marquis avait une politesse encore plus agréable à l'interlocuteur que celle de l'évêque de Besançon lui-même. L'audience ne dura pas 3 minutes. En sortant, l'abbé dit à Julien « Vous avez regardé le marquis comme vous eussiez fait d'un tableau. Je ne suis pas un grand grec dans ce que ces gens-ci appellent la politesse. Bientôt vous en saurez plus que moi. Mais enfin, la hardiesse de votre regard m'a semblé peu polie. » On était remonté en fiacre. Le cocher arrêta près du boulevard. L'abbé introduisit Julien dans une suite de grands salons. Julien remarqua qu'il n'y avait pas de meubles. Il regardait une magnifique pendule dorée, représentant un sujet très indécent selon lui, lorsqu'un monsieur fort élégant s'approcha d'un air riant. Julien fit un demi-saut. Le monsieur sourit et lui mit la main sur l'épaule. Julien tressaillit et fit un saut en arrière. Il rougit de colère. L'abbé Pirard, malgré sa gravité, rit aux larmes. Le monsieur était un tailleur. « Je vous rends votre liberté pour 2 jours, » lui dit l'abbé en sortant. « C'est alors seulement que vous pourrez être présenté à madame de la Mole. Un autre vous garderait comme une jeune fille en ces premiers moments de votre séjour dans cette nouvelle Babylone. Perdez-vous tout de suite si vous avez à vous perdre, et je serai délivré de la faiblesse que j'ai de penser à vous. Après-demain matin, ce tailleur vous portera 2 habits. Vous donnerez 5 francs au garçon qui vous les essaiera. Du reste, ne faites pas connaître le son de votre voix à ces Parisiens-là. Si vous dites un mot, ils trouveront le secret de se moquer de vous. C'est leur talent. Après-demain, soyez chez moi à midi. Allez, perdez-vous. J'oubliais. Allez commander des bottes, des chemises, un chapeau, aux adresses que voici. » Julien regardait l'écriture de ses adresses. « C'est la main du marquis, » dit l'abbé. « C'est un homme actif qui prévoit tout et qui aime mieux faire que commander. Il vous prend auprès de lui pour que vous lui épargniez ce genre de peine. Aurez-vous assez d'esprit pour bien exécuter toutes les choses que cet homme vif vous indiquera à demi-mot? C'est ce que montrera l'avenir. Gare à vous !» Julien entra sans dire un mot chez les ouvriers indiqués par les adresses. Il remarqua qu'il en était reçu avec respect, et le bottier, en écrivant son nom sur son registre, mit « Monsieur Julien de Sorel ». Au cimetière du Père-Lachaise, un monsieur fort obligeant, et encore plus libéral dans ses propos, s'offrit pour indiquer à Julien le tombeau du maréchal Ney, qu'une politique savante prive de l'honneur d'une épitaphe. Mais en se séparant de ce libéral, qui, les larmes aux yeux, le serait presque dans ses bras, Julien n'avait plus de montre. Ce fut, riche de cette expérience, que le surlendemain, à midi, il se présenta à l'abbé Pirard, qui le regarda beaucoup. « Vous allez peut-être devenir un fat, » lui dit l'abbé d'un air sévère. Julien avait l'air d'un fort jeune homme en grand deuil. Il était à la vérité très bien, mais le bon abbé était trop provincial lui-même pour voir que Julien avait encore cette démarche des épaules qui, en province, est à la fois élégance et importance. En voyant Julien, le marquis jugea ses grâces d'une manière si différente de celle du bon abbé qu'il lui dit « Auriez-vous quelque objection à ce que M. Sorel prît des leçons de danse ?» L'abbé resta pétrifié. « Non, » répondit-il enfin, « Julien n'est pas prêtre. » Le marquis, montant 2 à 2 les marches d'un petit escalier dérobé, alla lui-même installer notre héros dans une jolie mansarde qui donnait sur l'immense jardin de l'hôtel. Il lui demanda combien il avait pris de chemises chez la lingère. « 2, » répondit Julien, intimidé de voir un si grand seigneur descendre à ces détails. « Fort bien, » reprit le marquis d'un air sérieux et avec un certain ton impératif et bref, qui donna à penser à Julien. « Fort bien, prenez encore 22 chemises. voici le premier quartier de vos appointements. »
En descendant de la mansarde, le marquis appela un homme âgé.
« Arsène, lui dit-il, vous servirez Monsieur Sorel. »
Peu de minutes après, Julien se trouva seul dans une bibliothèque magnifique. Ce moment fut délicieux. Pour n'être pas surpris dans son émotion, il alla se cacher dans un petit coin sombre. De là, il contemplait avec ravissement le dos brillant des livres.
« Je pourrais lire tout cela, » se disait-il.
« Et comment me déplairais-je ici ? Monsieur de Rênal se serait cru déshonoré à jamais de la centième partie de ce que le marquis de la Mole vient de faire pour moi. » Mais voyons les copies à faire. Cet ouvrage terminé, Julien osa s'approcher des livres. Il faillit devenir fou de joie en trouvant une édition de Voltaire. Il courut ouvrir la porte de la bibliothèque pour n'être pas surpris. Il se donna ensuite le plaisir d'ouvrir chacun des 80 volumes. Ils étaient reliés magnifiquement. C'était le chef-d'œuvre du meilleur ouvrier de Londres. Il n'en fallait pas tant pour porter au comble l'admiration de Julien. Une heure après, le marquis entra, regarda les copies et remarqua avec étonnement que Julien écrivait « cela » avec deux L, celle-là. Tout ce que l'abbé m'a dit de sa science serait-il tout simplement un conte ? Le marquis, fort découragé, lui dit avec douceur « vous n'êtes pas sûr de votre orthographe ?»«
Il est vrai, » dit Julien, sans songer le moins du monde au tort qu'il se faisait. Il était attendri des bontés du marquis, qui lui rappelait le ton rogue de M. de Rênal.
« C'est du temps perdu que toute cette expérience de petit abbé franc-comtois, » pensa le marquis. « Mais j'avais un si grand besoin d'un homme sûr. »«
Cela ne s'écrit qu'avec une L, » lui dit le marquis.
« Quand vos copies seront terminées, cherchez dans le dictionnaire les mots de l'orthographe desquels vous ne serez pas sûr. » À 6 heures, le marquis le fit demander. Il regarda avec une peine évidente les bottes de Julien.
« J'ai un tort à me reprocher. Je ne vous ai pas dit que tous les jours à 5h30, il faut vous habiller. »
Julien le regardait sans comprendre.
« Je veux dire mettre des bas. Arsène vous en fera souvenir. Aujourd'hui, je ferai vos excuses. »
En achevant ces mots, Monsieur de la Mole faisait passer Julien dans un salon resplendissant de dorures. Dans les occasions semblables, Monsieur de Rênal ne manquait jamais de doubler le pas pour avoir l'avantage de passer le premier à la porte. La petite vanité de son ancien patron fit que Julien marcha sur les pieds du marquis et lui fit beaucoup de mal à cause de sa goutte.
« Oh, il est balourd par-dessus le marché !» se dit celui-ci.
Il le présenta à une femme de haute taille et d'un aspect imposant. C'était la marquise. Julien lui trouva l'air impertinent, un peu comme Madame de Maugiron, la sous-préfète de l'arrondissement de Verrières, quand elle assistait au dîner de la Saint-Charles. Un peu troublé de l'extrême magnificence du salon, Julien n'entendit pas ce que disait Monsieur de la Mole. La marquise daigna à peine le regarder. Il y avait quelques hommes, parmi lesquels Julien reconnut, avec un plaisir indicible, le jeune évêque d'Agde, qui avait daigné lui parler quelques mois auparavant à la cérémonie de Bray-le-Haut. Ce jeune prélat fut effrayé sans doute des yeux tendres que fixait sur lui la timidité de Julien, et ne se soucia point de reconnaître ce provincial. Les hommes, réunis dans ce salon, semblèrent à Julien avoir quelque chose de triste et de contraint. On parle bas à Paris, et l'on n'exagère pas les petites choses. Un joli jeune homme, avec des moustaches, très pâle et très élancé, entra vers les 6h30. Il avait une tête fort petite.
« Vous vous ferez toujours attendre, » dit la marquise, à laquelle il baisait la main.
Julien comprit que c'était le comte de la Mole. Il le trouva charmant dès le premier abord.
Est-il possible, se dit-il, que ce soit là l'homme dont les plaisanteries offensantes doivent me chasser de cette maison? À force d'examiner le comte Norbert, Julien remarqua qu'il était en bottes et en éperon. Et moi, je dois être en souliers, apparemment comme inférieur. On se mit à table. Julien entendit la marquise qui disait un mot sévère en élevant un peu la voix. Presque en même temps, il aperçut une jeune personne extrêmement blonde et fort bien faite qui vint s'asseoir vis-à-vis de lui. Elle ne lui plut point. Cependant, en la regardant attentivement, il pensa qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi beaux. Mais ils annonçaient une grande froideur d'âme. Par la suite, Julien trouva qu'ils avaient l'expression de l'ennui qui examine, mais qui se souvient de l'obligation d'être imposant. Madame de Rênal avait cependant de bien beaux yeux, se disait-il. Le monde lui en faisait compliment, mais il n'avait rien de commun avec ceux-ci. Julien n'avait pas assez d'usage pour distinguer que c'était du feu de la saillie, que brillaient de temps en temps les yeux de Mademoiselle Mathilde. C'est ainsi qu'il l'entendit nommer. Quand les yeux de Madame de Rênal s'animaient, c'était du feu des passions, ou par l'effet d'une indignation généreuse au récit de quelque action méchante. Vers la fin du repas, Julien trouva un mot pour exprimer le genre de beauté des yeux de Mademoiselle de la Mole. « Ils sont scintillants !» se dit-il. Du reste, elle ressemblait cruellement à sa mère, qui lui déplaisait de plus en plus, et il cessa de la regarder. En revanche, le comte Norbert lui semblait admirable de tout point. Julien était tellement séduit qu'il n'eut pas l'idée d'en être jaloux et de le haïr, parce qu'il était plus riche et plus noble que lui. Julien trouva que le marquis avait l'air de s'ennuyer. Vers le second service, il dit à son fils « Norbert, je te demande tes bontés pour M. Julien Sorel, que je viens de prendre à mon état-major, et dont je prétends faire un homme, si celle-là se peut. » « C'est mon secrétaire, » dit le marquis à son voisin, « et il écrit cela avec deux L. » Tout le monde regarda Julien, qui fit une inclination de tête un peu trop marquée à Norbert. Mais en général, on fut content de son regard. Il fallait que le marquis eût parlé du genre d'éducation que Julien avait reçu, car un des convives l'attaqua sur Horace. C'est précisément en parlant d'Horace que j'ai réussi auprès de l'évêque de Besançon, se dit Julien. Apparemment qu'ils ne connaissent que cet auteur. À partir de cet instant, il fut maître de lui. Ce mouvement fut rendu facile parce qu'il venait de décider que Mademoiselle de la Mole ne serait jamais une femme à ses yeux. Depuis le séminaire, il mettait les hommes au pis et se laissait difficilement intimider par eux. Il eût joui de tout son sang-froid si la salle à manger eût été meublée avec moins de magnificence. C'était, dans le fait, deux glaces de 8 pieds de haut chacune, et dans lesquelles il regardait quelquefois son interlocuteur en parlant d'Horace, qui lui imposait encore. Ses phrases n'étaient pas trop longues pour un provincial. Il avait de beaux yeux, dont la timidité tremblante ou heureuse, quand il avait bien répondu, redoublait l'éclat. Il fut trouvé agréable. Cette sorte d'examen jetait un peu d'intérêt dans un dîner grave. Le marquis engagea par un signe l'interlocuteur de Julien à le pousser vivement. Serait-il possible qu'il sût quelque chose? Pensait-il. Julien répondit en inventant ses idées et perdit assez de sa timidité pour montrer, non pas de l'esprit, chose impossible à qui ne sait pas la langue dont on se sert à Paris, mais il eut des idées nouvelles, quoique présentées sans grâce ni à propos, et l'on vit qu'il savait parfaitement le latin. L'adversaire de Julien était un académicien des inscriptions, qui par hasard savait le latin. Il trouva en Julien un très bon humaniste, n'eut plus la crainte de le faire rougir,
et chercha réellement à l'embarrasser. Dans la chaleur du combat, Julien oublia enfin l'ameublement magnifique de la salle à manger. Il en vint à exposer sur les poètes latins des idées que l'interlocuteur n'avait lues nulle part. En honnête homme, il en fit honneur au jeune secrétaire. Par bonheur, on entama une discussion sur la question de savoir si Horace a été pauvre ou riche. Un homme aimable, voluptueux et insouciant, faisant des vers pour s'amuser, comme Chapelle, l'ami de Molière et de La Fontaine, ou un pauvre diable de poète, lauréat, suivant la cour et faisant des odes pour le jour de naissance du roi, comme Sauté, l'accusateur de Lord Byron. On parla de l'état de la société sous Auguste et sous George IV. Aux deux époques, l'aristocratie était toute puissante. Mais à Rome, elle se voyait arracher le pouvoir par Mécène, qui n'était que simple chevalier. Et en Angleterre, elle avait réduit George IV à peu près à l'état d'un doge de Venise. Cette discussion sembla tirer le marquis de l'état de torpeur où l'ennui le plongeait au commencement du dîner. Julien ne comprenait rien à tous les noms modernes, comme Sauté, Lord Byron, George IV, qu'il entendait prononcer pour la première fois. Mais il n'échappa à personne que toutes les fois qu'il était question de faits passés à Rome et dont la connaissance pouvait se déduire des œuvres d'Horace, de Martial, de Tacite, etc., il avait une incontestable supériorité. Julien s'empara sans façon de plusieurs idées qu'il avait apprises de l'évêque de Besançon dans la fameuse discussion qu'il avait eue avec ce prélat. Ce ne furent pas les moins goûtés. Lorsqu'on fut là de parler de poète, la marquise, qui se faisait une loi d'admirer tout ce qui amusait son mari, daigna regarder Julien. Les manières gauches de ce jeune abbé cachent peut-être un homme instruit, dit à la marquise l'académicien qui se trouvait près d'elle. Et Julien en entendit quelque chose. Les phrases toutes faites convenaient assez à l'esprit de la maîtresse de la maison. Elle adopta celle-ci sur Julien, et ce sut bon gré d'avoir engagé l'académicien à dîner. « Il amuse monsieur de la Mole, » pensait-elle. Chapitre 33 Les premiers pas. Cette immense vallée remplie de lumières éclatantes et de tant de milliers d'hommes éblouit ma vue. Pas un ne me connaît, tous me sont supérieurs. Ma tête se perd. Poémie des Laves, Réna. Le lendemain, de fort bonne heure, Julien faisait des copies de lettres dans la bibliothèque lorsque mademoiselle Mathilde y entra par une petite porte de dégagement fort bien cachée avec des dos de livres. Pendant que Julien admirait cette invention, mademoiselle Mathilde paraissait fort étonnée et assez contrariée de le rencontrer là. Julien lui trouva en papillote, l'air dur, hautain et presque masculin. Mademoiselle de la Mole avait le secret de voler des livres dans la bibliothèque de son père, sans qu'il y parût. La présence de Julien rendait inutile sa course de ce matin, ce qui la contraria d'autant plus qu'elle venait chercher le second volume de « La princesse de Babylone » de Voltaire, digne complément d'une éducation éminemment monarchique et religieuse, chef-d'œuvre du Sacré-Cœur. Cette pauvre fille, à 19 ans, avait déjà besoin du piquant de l'esprit pour s'intéresser à un roman. Le comte Norbert parut dans la bibliothèque vers les 3 heures. Il venait étudier un journal pour pouvoir parler politique le soir, et fut bien aise de rencontrer Julien, dont il avait oublié l'existence. Il fut parfait pour lui. Il lui offrit de monter à cheval. « Mon père nous donne congé jusqu'au dîner. » Julien comprit ce « nous » et le trouva charmant. « Mon Dieu, monsieur le comte, » dit Julien, « s'il s'agissait d'abattre un arbre de 80 pieds de haut, de l'écarrir et d'en faire des planches, je m'en tirerais bien, j'ose le dire. Mais monter à cheval,
Cela ne m'est pas arrivé 6 fois en ma vie.
« Eh bien, ce sera la 7e, » dit Norbert.
Au fond, Julien se rappelait l'entrée du roi de « à Verrières » et croyait monter à cheval supérieurement. Mais en revenant du bois de Boulogne au beau milieu de la rue du Bac, il tomba en voulant éviter brusquement un cabriolet et se couvrit de boue. Bien lui prit d'avoir 2 habits. Au dîner, le marquis, voulant lui adresser la parole, lui demanda des nouvelles de sa promenade. Norbert se hâta de répondre en termes généraux.
« Monsieur le comte est plein de bonté pour moi, » reprit Julien. « Je l'en remercie et j'en sens tout le prix. Il a daigné me faire donner le cheval le plus doux et le plus joli. Mais enfin, il ne pouvait pas m'y attacher. » Et, faute de cette précaution, je suis tombé au beau milieu de cette rue si longue, près du pont.
Mademoiselle Mathilde essaya en vain de dissimuler un éclat de rire. Ensuite, son indiscrétion demanda des détails. Julien s'en tira avec beaucoup de simplicité. Il eut de la grâce, sans le savoir.
« J'augure bien de ce petit prêtre, » dit le marquis à l'académicien. Un provincial simple en pareille occurrence, c'est ce qui ne s'est jamais vu et ne se verra plus. Et encore, il raconte son malheur devant des dames.
Julien mit tellement les auditeurs à leur aise sur son infortune qu'à la fin du dîner, lorsque la conversation générale eut pris un autre cours, mademoiselle Mathilde faisait des questions à son frère sur les détails de l'événement malheureux. Ces questions se prolongeant, et Julien rencontrant ses yeux plusieurs fois, il osa répondre directement, quoiqu'il ne fût pas interrogé. Et tous trois finirent par rire, comme auraient pu faire 3 jeunes habitants d'un village au fond d'un bois. Le lendemain, Julien assista à 2 cours de théologie, et revint ensuite transcrire 20aine de lettres. Il trouva établi près de lui dans la bibliothèque un jeune homme, mis avec beaucoup de soin, mais la tournure était mesquine et la physionomie celle de l'envie. Le marquis entra.
« Que faites-vous ici, monsieur Tambeau ? »
dit-il au nouveau venu d'un ton sévère.
« Je croyais... » reprit le jeune homme en souriant bassement.
« Non, monsieur, vous ne croyez pas. Ceci est un essai, mais il est malheureux. »
Le jeune Tambeau se leva furieux et disparut.
C'était un neveu de l'académicien, ami de madame de La Mole. Il se destinait aux lettres. L'académicien avait obtenu que le marquis le prendrait pour secrétaire. Tambeau, qui travaillait dans une chambre écartée, ayant su la faveur dont Julien était l'objet, voulut la partager. Et le matin, il était venu établir son écritoire dans la bibliothèque. À 4 heures, Julien osa, après un peu d'hésitation, paraître chez le comte Norbert. Celui-ci allait monter à cheval et fut embarrassé, car il était parfaitement poli. « Je pense, dit-il à Julien, que bientôt vous irez au manège, et après quelques semaines, je serai ravi de monter à cheval avec vous.
Je voulais avoir l'honneur de vous remercier des bontés que vous avez eues pour moi. « Croyez, monsieur, ajouta Julien d'un air fort sérieux, que je sens tout ce que je vous dois. Si votre cheval n'est pas blessé par suite de ma maladresse d'hier, et s'il est libre, je désirerais le monter ce matin.
« Ma foi, mon cher Sorel, à vos risques et périls, supposez que je vous ai fait toutes les objections que réclame la prudence. Le fait est qu'il est 4 heures, nous n'avons pas de temps à perdre. »
Une fois qu'il fut à cheval, « Que faut-il faire pour ne pas tomber ?» dit Julien au jeune comte.
« Bien des choses, » répondit Norbert en riant aux éclats. « Par exemple, tenir le corps en arrière. »
Julien prit le grand trot. On était sur la place Louis XVI.
« Ah, jeune téméraire !» dit Norbert. « Il y a trop de voitures, et encore menées par des imprudents. » Une fois par terre, leurs tilburies vont vous passer sur le corps, ils n'iront pas risquer de gâter la bouche de leur cheval en l'arrêtant tout court. »
20 fois, Norbert vit Julien sur le point de tomber. Mais enfin, la promenade finit sans accident. En rentrant, le jeune comte dit à sa sœur « Je vous présente un hardi casse-cou. » À dîner, parlant à son père, d'un bout de la table à l'autre, il rendit justice à la hardiesse de Julien. C'était tout ce qu'on pouvait louer dans sa façon de monter à cheval. Le jeune comte avait entendu le matin les gens qui pansaient les chevaux dans la cour prendre texte de la chute de Julien pour se moquer de lui outrageusement. Malgré tant de bonté, Julien se sentit bientôt parfaitement isolé au milieu de cette famille. Tous les usages lui semblaient singuliers, et il manquait à tous. Ses bévues faisaient la joie des valets de chambre. L'abbé Pirard était parti pour sa cure. Si Julien est un faible roseau, qu'il périsse. Si c'est un homme de cœur, qu'il se tire d'affaire tout seul, pensait-il.